Lorsqu'on parle de l'idée même, de l'expression « Dieu est l'Évangile », je vais l'illustrer comme ceci, d'accord? Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres. Il y a des gens même qui ont beaucoup d'argent. Puis je me suis fait dire par des gens qui ont pas mal d'argent que des fois la hantise qui les habite, c'est que les gens, que des amis s'intéressent à eux, dans le fond, pour leur argent. Ou pire encore, le pire scénario, c'est que quelqu'un cherche à les épouser à cause de leur argent. Fait qu'avoir de l'argent, c'est une bénédiction, mais en même temps, il y a peut-être des craintes qui sont associées à ça. Bien, le projet Dieu et l'Évangile nous pose un peu la question, est-ce que tu t'es marié à Christ pour son argent? Dans le fond, c'est ça la question. Est-ce que tu t'es marié à Christ pour les bénéfices qui venaient avec? Non, pour la personne elle-même. Parce que je veux dire, admettons-le, Jésus a tout pouvoir, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché, il possède toutes choses, son Père lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et c'est possible de venir à l'Évangile plus pour ce qu'il offre que pour une véritable relation avec lui. Et peut-être que c'est ta situation, mais tu sais quoi? Si tu maries quelqu'un pour son argent, ça se peut que tu aies une mauvaise surprise, ça se peut que ce ne soit pas un bon mariage, ça se peut que finalement, à part de l'argent, elle n'ait pas grand-chose d'autre à offrir. Si tu es venu à Christ pour les bénéfices, si tu as marié Christ pour son argent, bien la bonne nouvelle, c'est que ça peut juste s'améliorer quand tu vas découvrir sa personne. Et donc, c'est ça qu'on fait à travers ce projet-là. On se centre sur la personne de Dieu. On revient à cette idée que la bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même, et c'est dans cette intimité, dans cette communion-là avec lui qu'on veut aller, bien au-delà de tout ce qu'il nous donne à travers l'Évangile, tous les bénéfices qui viennent avec l'Évangile. Le véritable bénéfice, c'est cette communion qu'on peut avoir ensemble avec lui. Alors, ce qu'on fait ensemble ce matin pour faire notre kick-off, notre lancement de cette série, on commence par se rappeler ensemble c'est quoi l'Évangile, parce qu'après tout, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Ce matin, on pose le fondement, on s'en va dans 1 Corinthiens 15 et on regarde qu'est-ce que c'est l'Évangile. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur Jésus de venir saisir nos cœurs, de venir nous parler, de venir nous rencontrer ce matin. Père, on vient t'adorer ce matin, en église, que ce soit à la maison, ici, en personne. Seigneur, toi, tu es présent là où on est, tu es présent, disponible pour parler à nos cœurs, pour parler à notre esprit, notre intelligence, saisir nos affections, Seigneur. Seigneur, on veut se centrer sur toi ce matin. On veut tourner les regards vers toi, notre Créateur. Seigneur Jésus, on veut renouveler notre intelligence en découvrant de plus en plus combien tu nous as aimés, quelle est la grandeur de ton amour. Père, on veut, Seigneur, te connaître davantage. Esprit Saint, on veut laisser toute la place à ton œuvre en nous. C'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous fais entendre ce chant d'amour qui est l'Évangile constamment et qui vient vraiment l'imprégner dans nos cœurs, façonner nos pensées, nos émotions, nos affections, nos désirs, afin que nos cœurs soient renouvelés dans cet amour entier pour toi, Seigneur. Alors, je te prie pour chacun d'entre nous, on s'engage dans les prochaines semaines à chercher ta face, à chercher à renouveler cet amour pour toi, à sonder ce mariage qu'on a contracté avec toi pour voir quels étaient les motifs. Est-ce que vraiment on avait saisi que le plus beau dans ce mariage-là, c'est toi, et que c'est toi qu'on veut connaître, et que c'est toi qu'on veut saisir, c'est cette communion-là avec toi qu'on veut avoir? Viens nous éclairer, Seigneur. Viens ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir justement les motifs de nos cœurs et que nos yeux puissent être fixés sur ta beauté, Seigneur. Qu'on puisse retomber en amour avec toi si c'est nécessaire. Et Seigneur, je sais que quelques personnes qui font le projet sont encore en train de découvrir la beauté de l'Évangile, sont encore en train de fraterniser avec toi, de flirter un peu avec toi, Seigneur. Ma prière, c'est qu'à travers ces 6 semaines, il y ait des unions qui se fassent de cœur avec toi, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment découvrir ta beauté. Je te demande de venir nous parler de toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
La lecture de ce matin est dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 11, dans la Nouvelle Édition de Genève. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru.
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. L'Évangile, vous le savez probablement, l'Évangile nous vient d'un mot grec qui veut dire « bonne nouvelle ». Evangelion, traduit en français, ça veut dire « bonne nouvelle ». L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nos cœurs sont... À quelque part, nos cœurs sont configurés pour aimer les nouvelles. On aime avoir des nouvelles. Quand Esther rentre de sa journée d'enseignement à l'école, puis elle arrive à la maison, j'aime ça avec un sourire un peu coquin de lui dire « C'est quoi les potins? C'est quoi les derniers potins? Qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est ma manière, elle, de dire « Ouais, raconte-moi, qu'est-ce qui arrive? Tu m'as parlé d'elle. » Puis on prie même pour des collègues, tout ça, on a à cœur. Les gens, on veut qu'ils soient heureux. Puis on patine ensemble, pas méchamment. On se raconte des nouvelles. Nos cœurs sont configurés pour aimer les nouvelles. On aime les mauvaises puis les bonnes nouvelles. Hein? On a comme un côté un petit peu... On aime les drames. Des fois, il y a même quelque chose peut-être d'un peu pervers là-dedans. On se réjouit. Tenter de se réjouir du malheur des uns, je ne sais pas. Mais on aime les drames. C'est pour ça aussi que l'Évangile est tellement extraordinaire. C'est un drame absolument extraordinaire que le Sauveur se soit donné pour notre salut. C'est splendide comme image, comme don de soi, comme amour. Nos cœurs aiment les nouvelles. Et les bonnes nouvelles nous font du bien. Si nos cœurs sont curieux pour les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est comme une espèce de bombe qui nous guérit, qui nous fait du bien, qui nous apaise. On s'en va dans les journaux, hein, puis si on a le malheur de nous mettre dans les médias juste des mauvaises nouvelles, au début, c'est comme ça pique ta curiosité. Là, tu veux lire, OK. Là, tu es dedans, mais après un moment, c'est comme si, oh, la journée va être lourde. Là, tu cherches, y a-t-il une bonne nouvelle? Puis si tu tombes sur une bonne nouvelle, on ferme ça là-dessus, OK. C'est comme ça, ça fait du bien. Les bonnes nouvelles nous font du bien. Toutes les bonnes nouvelles nous font du bien. Maintenant, il y a des bonnes nouvelles, puis il y a comme des super bonnes nouvelles. Tu sais, je pourrais comparer, tu rentres à la maison, puis t'annonces, tu dis à ton épouse, ton mari, tu dis « Bon, j'ai eu mon augmentation de salaire. » Bonne nouvelle. C'est correct, tu sais. Ça dépend peut-être de l'augmentation de salaire aussi. Mais c'est pas la même chose que si tu dis « Hey, savais-tu quoi? Louis-Philippe et Evelyne ont eu leur bébé. Ils ont eu leur petite Éléonore, les coquins. » Ils ont eu leur beau bébé, leur belle petite crapule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça donne de la joie. Ou encore, « Hey, telle personne va se marier avec telle personne. » Savais-tu ça? Ou mieux encore, j'ai un collègue de travail, j'ai un ami qui vient d'accepter le Seigneur. Là, tu dis, « Aïe, c'est malade mental. C'est un miracle. J'ai assisté à un miracle. » Puis on partage ça. C'est des bonnes nouvelles. Bien, la bonne nouvelle des bonnes nouvelles, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y en aura jamais une plus grande, plus belle, plus réjouissante qui apporte autant de bonheur, qui guérit autant l'âme, qui guérit autant la vie, qui restaure la vie même pour l'éternité. Il n'y a aucune bonne nouvelle comparable à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Laissez-moi vous résumer l'exposé de ce matin comme ceci. L'Évangile est une bonne nouvelle extraordinaire, la plus belle des bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle se partage, elle se préserve, puis elle nous transforme. Cette bonne nouvelle se partage, elle se préserve, puis elle vient nous transformer de l'intérieur. Elle vient nous changer. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle tant que tu ne changes pas l'histoire, tant que tu ne transformes pas l'histoire. Regardez ce que Paul dit au verset 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Au verset 11, il va dire « Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, en parlant des autres apôtres qui ont annoncé l'Évangile, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » En d'autres mots, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle tant que tu ne changes pas l'histoire. Si tu changes l'histoire, ce n'est plus la même histoire. La bonne nouvelle se partage et se garde. Je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu, si vous le gardez dans les termes dans lesquels on vous l'a donné. À travers toute l'histoire de l'Église, plein de gens ont cherché à changer cette bonne nouvelle. Ils pensaient qu'ils pouvaient bonifier la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à la tweaker un petit peu, à la changer un peu. Non, on va changer ça, puis ça va être encore plus séduisant. Non, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle tant que tu ne la changes pas. Puis il faut que j'apprenne à la recevoir dans les termes où elle est, puis à la communiquer dans les termes où elle est. Je ne veux pas changer ça. C'est une bonne nouvelle tant que je ne la transforme pas. C'est drôle. Ça m'a pris longtemps avec c'est peut-être mon cerveau de gars, là, je vais faire mon sexiste, mais si tu me parlais de lever des poids, j'étais capable de figurer dans ma tête 5 livres, 10 livres, 15 livres, 30 livres, 40 livres. J'arrive à figurer ça dans ma tête. Mais un poids de bébé, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Fait que pendant des années, et encore aujourd'hui, j'aurais de la difficulté à le faire. Si j'apprenais que, par exemple, Éléonore est née, puis j'arrive à la maison, puis je disais, Esther, ils ont eu leur bébé, Éléonore est née. Esther me demande, elle pèse combien? Je suis, moi, 13 livres? 2 livres? Ça ne me dit rien! Je ne sais pas pendant tout! Non, mais c'est important. Esther s'est évertuée pendant des années à me dire, non, c'est important, ça nous dit si le bébé est en santé. Je suis-tu, moi, combien pèse ce bébé-là? 2 livres, 3 livres, 6 livres, 10 livres? Ça ne change rien dans ma tête. C'est important pour elle de savoir si le bébé est en forme, si le bébé est en santé. C'est un détail, ce n'est pas un détail. Ça change tout dans la vie de cet enfant-là, de savoir il est né à combien de livres. L'Évangile est une bonne nouvelle si tu ne changes pas l'histoire. Si tu changes l'histoire, ça peut devenir une fausse nouvelle. Ça peut devenir une mauvaise nouvelle. Ça peut devenir une nouvelle qui t'induit dans l'erreur. Ça peut devenir un faux Évangile. Et donc, c'est important pour nous comme chrétiens de s'assurer qu'on a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ telle que les apôtres l'ont communiquée, telle que les premiers témoins l'ont enseignée, de s'assurer qu'on étudie les Écritures pour être certain qu'on comprend bien c'est quoi l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle tant que tu ne changes pas l'histoire. Si tu changes l'histoire, ce n'est plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Paul nous donne, au verset 3 et 4, une super synthèse, un super résumé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, versets 3 et 4. Christ, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est comme super simple. Christ, le Messie, hein? Non seulement Jésus de Nazareth, mais Christ qui veut dire le Sauveur, le Messie, vient mourir pour une raison, est mort pour nos péchés. Il est vraiment mort. Ce n'est pas juste spirituel, ce n'est pas juste une image. Il a été enseveli, il a été mis en terre. Il était vraiment mort. Et le but, c'était pour nos péchés. Puis il est ressuscité des morts. Et tout ça s'est fait selon ce que les Écritures avaient annoncé. L'Évangile est tellement simple qu'un enfant de 5 ans peut le comprendre. Un enfant de 5 ans peut saisir une exhortation, un encouragement pour les parents. Tu as des enfants à la maison. Est-ce que tes enfants ont bien reçu l'Évangile? Est-ce que tes enfants comprennent bien l'Évangile? Pour savoir s'ils comprennent bien l'Évangile, ils doivent comprendre la version courte, celle que je viens de vous donner ici. Christ mort sur la croix pour nos péchés, enseveli, ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures. Synthèse, la version courte, c'est une proposition. C'est très court, je peux vérifier est-ce qu'ils ont compris ça. Une fois qu'ils ont compris ça, là tu veux commencer à raconter l'autre version. La version ventilée, la version expansive, la version que tu trouves dans toutes les Écritures, tout le récit de la création, de la chute de l'homme, d'Israël qui n'arrive pas à se corriger de lui-même, de l'Église qui est créée par Christ, par son sacrifice, par l'Évangile qui est prêché, de l'Esprit-Saint qui est donné, du retour de Christ à venir, de ce monde dans lequel l'Église vit, dans deux royaumes, le royaume des hommes puis le royaume de Dieu. C'est tout ça l'Évangile, c'est extraordinaire, c'est riche, c'est profond. Tu passes ta vie à l'étudier, tu passes ta vie à scruter les Écritures. Comme parent, tu veux t'assurer que tes enfants ont reçu l'Évangile, qu'ils peuvent te présenter dans l'Évangile dans sa version courte, mais aussi dans sa version la plus vaste. Quand ils sont tout petits, tu commences à leur enseigner l'Évangile, tu leur présentes cette histoire-là, c'est très simple, 5 ans, ils peuvent le saisir, peut-être même avant ça. Puis ensuite, pendant toute leur enfance, toute leur adolescence, puis après ça, pendant toute leur vie, il y a un moment dans tout ça où ils décident s'ils deviennent chrétiens ou non, mais qu'ils soient chrétiens ou non, ils sont en relation avec un chrétien. Si tu as reçu l'Évangile, tu vas passer toute ta vie à leur raconter l'Évangile quand même, à travers ta vie, à travers ton style de vie, à travers des conversations. Tes enfants deviennent des adultes, on s'assoit à la table, on commence à jaser, on commente la culture, on commente l'actualité, et toujours, ça revient à Christ. Je sais qu'on est fatigant. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles comparables. Alors, comme parents, est-ce que tes enfants ont saisi la version courte de l'Évangile? Est-ce qu'ils l'ont reçu? Est-ce qu'ils l'ont reçu assez clairement pour pouvoir le garder, pour pouvoir le partager, pour pouvoir le chérir, pour pouvoir en être transformé? Il faut que tu saches, il faut que tu réalises que tes enfants, la bonne nouvelle que tu leur apportes va être en compétition avec toutes sortes d'autres nouvelles. C'est comme ça. C'est comme ça, l'être humain, c'est une bébite de narration. On aime les histoires, on aime les nouvelles. On est toujours en train de chercher des nouvelles. On est toujours en train de chercher de la nouveauté. Tes enfants vont être exposés à toutes sortes de nouvelles, à toutes sortes de bonnes nouvelles, à des narratifs qui vont rentrer en compétition avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on va vouloir les faire rentrer dans une autre histoire que celle du christianisme. Est-ce qu'au moins tu leur as donné la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Viendra un temps où ils vont faire un choix. Ça va être leur décision en définitive. Tu ne peux pas produire des petits chrétiens en apprenant une recette. Ce n'est pas de l'alchimie qu'on fait, nous autres. On prie pour des miracles, quelque chose qui se passe entre Dieu et ton enfant, ton ami, ton conjoint, ton voisin, ton collègue de travail. Ce qu'on demande à Dieu, c'est des miracles. Mais je leur donne l'Évangile afin qu'ils le reçoivent, afin que le miracle puisse se produire. Est-ce que tes enfants ont reçu l'Évangile? Est-ce qu'ils continuent à recevoir de toi l'Évangile? Est-ce que ton époux, ton épouse entend de toi l'Évangile? L'Évangile est une bonne nouvelle dans la mesure où l'histoire n'est pas transformée, dans la mesure où je la partage et la personne qui l'entend peut la résumer, peut exprimer le fait qu'elle comprend l'Évangile. Et ensuite de ça, je vais passer ma vie à explorer avec tous ceux qui veulent autour de moi toute la beauté, la profondeur de cette bonne nouvelle-là, toute la richesse de l'Évangile. C'est vraiment la plus belle des bonnes nouvelles. Puis ce que Paul nous dit ici, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas simplement une belle histoire. On aime les histoires. C'est passionnant, les histoires. Écoute un bon film où tu as un beau narratif qui est raconté, puis là, tu peux t'imaginer dans ça, puis tu peux rêver. Moi, j'ai toujours été un rêveur. Moi, je m'endors le soir en rêvant. Puis non, vous ne saurez pas à quoi je rêve. Ça, c'est mes affaires. Puis Saint-Esprit. Mais je m'endors toujours en rêvant. J'ai encore un petit côté enfant où j'imagine des choses quand je m'endors le soir. On aime les histoires. Mais l'Évangile, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas simplement une belle histoire. Ça repose, c'est ancré dans la réalité. Il y a eu des témoins de cette bonne nouvelle-là. Et Paul nous en présente deux témoins ici. Et peut-être que dans ta quête par rapport au christianisme, c'est là que tu es en train de dire, écoute, un peu comme si tu rencontrais une fille, tu aimerais ça peut-être la marier, mais tu dis, es-tu vrai? Ça existe-tu du beau puis du bon monde comme ça? Est-ce qu'il est vrai? C'est sérieux cette affaire-là? Bien, le christianisme est séduisant parce que c'est vraiment une belle histoire. Les gens qui écoutent ça et qui disent « Mais quelle histoire affreuse! Un Dieu qui vient sacrifier pour tes péchés, qui vient pour te faire grâce, qui veut te pardonner. » Il y en a qui trouvent ça affreux, mais sont spéciales un peu. Je veux dire, la majorité des gens vont dire « Écoute, c'est vraiment une belle histoire, cette histoire-là. » Après ça, la question, c'est de savoir « Es-tu vrai? » Paul nous dit « Elle est ancrée dans la réalité. » Oui, il y a des dimensions surnaturelles. Oui, il y a des dimensions extraordinaires. Oui, ça dépasse ce que nous, on peut concevoir comme ça. Mais elle est ancrée dans la réalité. Puis Paul nous présente ses témoins, les témoins de la bonne nouvelle. Premièrement, les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Un des grands principes de la Bible, c'est que la Bible, on l'appelle aussi les Saintes Écritures. On pense que ces écrits-là, et on croit parce qu'on a examiné les Écritures, parce qu'on les a éprouvées. On croit que ces Écritures-là sont saintes. Ce n'est pas simplement un roman. Ce n'est pas simplement un livre d'histoire, c'est une lettre de l'histoire divine. C'est une lettre inspirée par l'Esprit de Dieu à des hommes de Dieu qui ont rédigé, conduit par lui, une révélation qui nous fait connaître Dieu. C'est ce que nous croyons fermement. Puis si tu n'es pas rendu là dans tes convictions, si tu dis, écoute, beau principe, belle sagesse, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr que je suis prêt à déclarer que je serais prêt à dire à un ami, « Ouais, moi, je crois aussi la Bible. Là, je pense vraiment que c'est la parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu. » Mais sonde les Écritures. Éprouve-les. Elles supportent bien l'examen. Paul nous dit que ce qui s'est passé, ce qu'eux autres ont observé, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, avait été annoncé dans les Écritures, avait été annoncé par les prophètes. Et je vous donne juste un échantillon dans Ésaïe 53, des centaines d'années avant la venue de Jésus. C'est un texte beaucoup plus ancien que la venue de Jésus de Nazareth. On lit dans Ésaïe 53, 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Prends le temps d'aller lire les passages prophétiques, le psaume 22, Ésaïe 53, Ésaïe 54. Il y a des centaines de passages dans l'Ancien Testament que tu peux aller voir. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de lire les Écritures. Avant de te dire, écoute, c'est trop beau pour être vrai. Prends le temps de lire les Écritures. Paul nous dit qu'il croit dans l'Évangile parce que cette bonne nouvelle que Jésus a annoncée est conforme. Et conforme à ce que les prophètes avaient annoncé. Et conforme à ce que Dieu avait déjà révélé. Et donc, cette bonne nouvelle-là est extraordinaire parce que ce n'est pas un mythe. Si ce n'était qu'un mythe, bien, ça serait peut-être le plus beau mythe de l'histoire de l'humanité. Ça serait peut-être l'histoire la plus inspirante. Mais à part te donner une direction dans ta vie, elle ne te donnerait aucune assurance. Le premier témoin qu'on voit dans le passage, c'est les Saintes Écritures. Et si tu veux affirmer ta conviction, ta foi dans l'Évangile de Jésus-Christ, va vers les Saintes Écritures. À travers ces 6 semaines, on va lire un livre de John Piper. Et John Piper cite les Écritures, il nous aide à comprendre les Écritures, il nous aide à saisir l'Évangile. On va retourner constamment aux Saintes Écritures. C'est le premier témoin qu'on voit ici qui nous dit que cette histoire-là n'est pas un mythe. Le deuxième témoin, ce sont des témoins oculaires. C'est des gens qui étaient là, qui étaient présents, qui ont vu les miracles se produire. Et ils ont été nombreux. Au verset 5 à 8, on lit, « Et il est apparu à Céphas ou à Pierre, c'est l'apôtre Pierre ici, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Et dont la plupart sont encore vivants. » Au moment où Paul écrit ça, il dit, « Écoutez, vous pouvez encore aller leur jaser puis aller les voir. » La majorité des choses que tu prends pour acquises dans l'histoire de l'humanité n'ont pas eu autant de témoins que la résurrection de Jésus-Christ. Ne peuvent pas s'appuyer sur autant de textes avec autant de preuves que ce qu'on a pour Jésus-Christ. Le défi avec Christ, c'est qu'il était plus grand que toi puis moi. Si Christ avait été aussi petit que toi et moi, tu n'aurais même pas de difficulté à croire en lui. Ben oui, pareil comme moi. Non, il est infiniment plus grand que nous, infiniment plus beau que nous, plus majestueux. Il est surnaturel. Il est divin. C'est Dieu le Fils. Alors, c'est tout un défi. Ça nous demande de croire dans un être surnaturel. Mais Paul nous dit, nous, on a été témoins de ça. Et ces gens-là ne couraient pas après l'argent. La majorité des apôtres, en fait, tous les apôtres sont morts martyrs. Pour autant qu'on sache, un grand nombre de chrétiens sont morts martyrs. Il n'y avait rien à gagner sur le plan humain, sur le plan terrestre. Ce n'était pas une bonne nouvelle qui leur rapportait autre chose que la joie de dire la vérité et d'offrir sa vie pour ça. Et des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans sont morts en prêchant l'Évangile. Si tu menaces un chrétien de lui enlever la vie ou de renier l'Évangile, en principe, il va accepter que tu enlèves la vie. Les choses s'étaient beaucoup apaisées en Chine depuis une dizaine d'années. L'Église chinoise avait beaucoup plus de liberté. Et évidemment, prenait de l'expansion aussi à travers ça. Maintenant, avec Xi Jinping, on le voit, ce n'est pas juste contre les chrétiens, c'est contre toute religion, contre toute personne qui s'oppose au régime. Vraiment, le contrôle s'est resserré énormément. On détruit des églises, des bâtiments d'églises. Et hier, j'ai appris que l'équivalent de SOLA, TGC, Chine, la Coalition pour l'Évangile de Chine, a été bannie par le gouvernement, a été déclarée illégale. C'était la plus grande source d'enseignement. C'est le site en Chine, chez les évangéliques, qui avait la plus grande charge de téléchargement. Maintenant, est-ce que vous pensez que les chrétiens vont arrêter de prêcher Christ? Là, c'est rendu que tout chrétien ou toute église qui est enregistrée doit soumettre ses enseignements. Je dois soumettre mes enseignements au Parti communiste pour approbation. Je peux vous le dire tout de suite, il va continuer à avoir des Chinois qui vont se convertir. Parce que la réalité, comme le disait, je vous l'ai déjà cité dans les dernières années, un des pères de l'Église, Tertullien, il disait « Le sang des chrétiens est une semence de chrétiens ». Et donc, ça va continuer à se multiplier. Mais ça remonte au premier témoin oculaire qui était tellement convaincu qu'il ne ferait pas d'argent avec ça, qu'il n'y aurait pas de gain personnel, mais ils étaient convaincus que c'était la bonne nouvelle que tous les êtres humains sur Terre ont besoin d'entendre. Et donc, ils tenaient à le communiquer. L'Évangile est une bonne nouvelle tant que l'histoire n'est pas transformée. Et l'Évangile est une bonne nouvelle si elle est transmise selon ce que les témoins nous ont transmis, selon ce que les Saintes Écritures témoignent et selon ce que les premiers témoins, les témoins oculaires, nous ont transmis. En même temps, il y a comme un troisième témoin dans le passage, puis je voulais le mettre à part. C'est le fruit dans ta vie. C'est mon dernier point. Le fruit dans ta vie. L'œuvre de grâce que fait l'Évangile dans notre vie, c'est le troisième témoin dans le passage. Regardez les versets 10 et 11. Par la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle de lui. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. L'autre témoin dans le passage après les Écritures et les témoins oculaires, c'est l'œuvre de grâce qui se passe dans le cœur d'un individu. Puis j'ai voulu le mettre à part parce qu'il y a comme une dimension objective au sein des Écritures. Je peux aller étudier les Écritures, c'est à l'extérieur de moi. Il va y avoir un pas de foi que je vais faire à un moment donné, comme pour les premiers témoins. Hein. Je vais croire le témoignage. C'est comme ça que ça se passe en cours. Ça va être crédible ou ça ne sera pas crédible, mais il y a quelque chose d'objectif. C'est à l'extérieur de moi, je peux l'examiner. Le troisième témoin a une dimension plus subjective, puis en même temps, c'est comme le témoin le plus important. C'est l'œuvre de grâce qui se passe en nous. Puis l'apôtre Paul dit, écoutez, non seulement les Écritures l'annonçaient, non seulement nous l'avons vu de nos yeux, mais j'étais un persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul, avant d'être chrétien, persécutait l'Église. Il était de ceux qui versaient le sang des chrétiens. Lorsqu'Étienne, le premier martyr de l'Église, est mis à mort, Paul est là et les gens viennent déposer, les gens qui vont lapider Étienne viennent déposer à ses pieds leur manteau juste pour être libres de leur mouvement pour pouvoir lapider Étienne. Et donc, clairement dans le passage, Paul est là puis semble présider à la mise à mort d'Étienne. Laissez-moi ça, les gars, aller faire la job, je check ça. Ça, c'est Paul. Mais Paul va mourir martyr. Paul va être battu, il va être mis en prison. Il va être rejeté par les siens, par les Juifs. Mécompris, Paul a été transformé par la grâce. J'aime cette citation de John Newton. John Newton était un esclavagiste. Il travaillait sur un négrier, il transportait des esclaves, il vendait des esclaves. Puis un jour, il s'est converti, puis il a réalisé tout le mal qu'il avait fait à ces gens-là. Combien c'était terrible ce qu'il avait fait. J'aime ce qu'il a écrit. Il dit, je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je veux être, je ne suis pas ce que j'espère être dans l'autre monde, mais je ne suis plus ce que j'étais autrefois, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Le troisième témoin dans le passage, c'est la grâce de Dieu. Paul dit, vous avez été sauvés. L'évangile qu'on vous a transmis, que vous avez reçu et par lequel vous avez été sauvés du péché puisque Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Je vais inviter les musiciens à venir s'installer. Tout le projet qu'on fait à travers Dieu et l'évangile, c'est à quelque part d'aller s'interroger, d'aller examiner, oui, notre compréhension de l'évangile, oui, s'assurer que j'ai bien reçu l'évangile. Mais c'est aussi d'aller examiner cette œuvre de grâce de Dieu dans nos cœurs. C'est aussi d'aller voir ce que Dieu a fait en nous. C'est aussi d'aller voir jusqu'où Dieu a travaillé. C'est d'inviter une œuvre de grâce en nous. C'est ça qu'on fait avec ce projet-là. Certains d'entre vous, vous avez besoin encore de découvrir l'Évangile. Vous regardez Christ de loin, vous regardez Jésus-Christ, puis vous dites, il me semble qu'il y a quelque chose de séduisant, il me semble qu'il y a quelque chose de beau, ça m'attire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est juste une belle histoire, je ne sais pas si c'est juste des principes. Peut-être que c'était la foi de tes parents, ce n'est pas encore la tienne, ou peut-être que c'est la tienne, peut-être que c'est celle de ton conjoint, peut-être que c'est celle d'un ami, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. Pour d'autres, vous avez saisi l'Évangile, puis à quelque part, vous dites, on dirait que j'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma passion. Mais à travers le projet, on va se poser la question, est-ce que tu as marié Christ pour son argent? Est-ce que tu as marié Christ pour les bénéfices qui venaient avec l'Évangile? Comme j'ai dit, plusieurs d'entre nous, on est venus à l'Évangile parce que notre vie était trop difficile, on voulait qu'il fasse du ménage dans notre vie, on voulait qu'il mette de l'ordre dans notre vie. Plusieurs d'entre nous, on est venus à l'Évangile avec des motifs qui n'étaient pas aussi nobles que de dire hey, « Moi, je veux être uni à Christ, je veux être uni à Dieu. » On ne s'est pas tous mariés pour être en communion avec l'époux. Plusieurs d'entre nous, nous sommes mariés pour les bénéfices. On était là pour son argent. Mais c'est, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'écoute, il n'y a pas de déception quand tu découvres Christ. Et ce qu'on va faire à travers cette aventure-là pendant les 6 prochaines semaines, ce qu'on va faire à travers cette aventure-là, c'est qu'on va redécouvrir la beauté et la richesse de l'Évangile, la beauté et la richesse du Dieu de l'Évangile. On va redécouvrir ensemble que Dieu est l'Évangile. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, on est dans ta présence. À cause de ta parole qui nous parle, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, parce que tu nous interpelles. Tu nous interpelles dans notre âme, dans notre cœur, par l'œuvre de ton esprit, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que, oui, Seigneur, tu touches nos cœurs, tu saisisses nos émotions, tu saisisses notre pensée, mais que tu saisisses notre être entier. Ma prière, Seigneur, c'est qu'à travers ce projet, Dieu et l'Évangile, tu viennes vraiment saisir notre âme et que nous voyons ta beauté, ta majesté. Que la pureté de ce mariage avec toi, Seigneur, soit entier. Et vraiment qu'on retombe en amour avec toi ou qu'on tombe en amour avec toi, Seigneur. Viens bénir les groupes qui vont se réunir. Viens bénir ces moments de lecture bénis qu'on va passer, chéris qu'on va passer. Viens nous rencontrer, Seigneur, c'est de toi dont on a besoin. Seigneur, viens à notre rencontre. Nous te le demandons dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.